Vous avez fait un lien rapide entre la crise des subprimes et les produits dits toxiques vendus à certaines collectivités locales.
Non, alors il n'y a pas de lien en termes de, comment dire, d'homogénéité de produits, c'est pas du tout la même chose, mais parce que c'est pas du tout le même sous-jacent. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce qui a été vendu en même temps et en complément des prêts sont des instruments de couverture sur les risques de dérive de taux. Et ces instruments de couverture, ils n'existent, l'exemple que je viens de citer, que lorsqu'il y a une contrepartie. Et, en gros, une façon de dire les choses, c'est caricatural ce que je dis. D'habitude, vous n'avez aucun intérêt en tant que collectivité locale à prendre autre chose qu'un taux fixe, parce que vous ne pouvez pas courir, c'est pas votre métier de courir des risques sur les taux. Donc normalement, vous prenez un taux fixe. Mais si à un moment donné, il y a votre banquier qui vous dit, mais attendez, vous avez vu les taux fixes, ils sont super chers, moi je vous propose, vous prenez un taux variable, vous payez en même temps un instrument de couverture, ça vous coûte moins cher. Donc vous avez un intérêt à le faire. Sauf que ça fonctionne que si, globalement, ces instruments de couverture, eux, existent toujours. Or, si ces instruments de couverture sont considérés comme des prêts qui sont eux-mêmes poulés, mis dans d'autres trucs que d'autres mecs achètent, etc., c'est là où il y a l'espèce d'analogie par rapport au système des subprimes. Vous avez un actif initial qui est un prêt, en fait, que ce soit un prêt fait à un propriétaire ou un contrat de couverture sur un risque de dérive de taux qui est packagé et qui, après, est poulé. Et si la contrepartie n'existe plus au bout, ben, vous n'avez pas du tout de garantie et c'est comme si vous aviez acheté un airbag, mais on ne vous l'a pas livré. Donc, s'il y a un crash, vous prenez le truc de...
Ce qu'on entend là sur la presse, sur les quelques colocs qui ont pris des prix structurés, ça n'a pas de rapport, je pense, avec le fait qu'il n'y ait pas de contrepartie en face. C'est juste un problème de risque. La question est pourquoi une collectivité locale ne pourrait pas prendre 10%, 15% de sa dette en structuré?
Elle peut le faire si elle est choisie bien. Ce qui s'est passé, moi j'ai assisté à des conversations incroyables avec des communautés urbaines là, qui achetaient des produits dérivés qui étaient indexés sur le yen par exemple. C'est des trucs hallucinants. Et je ne pense pas que les traders de la banque ou des banques qui vendaient ces produits avaient de mauvaises intentions. Ils avaient trouvé une espèce de martingale incroyable et ils allaient la présenter à des colocs. Qui disaient, oui, c'est bien. Et effectivement, ça gagnait de l'argent pendant un certain temps. Et je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a d'abord des produits comme ça, exotiques, qui vont bien un moment, puis qui se retournent, parce que le marché se retourne. Et puis, comme ils n'ont pas de raison, c'est que de la spéculation, donc c'est la vie. Hein. Comme quand vous achetez des actions, ça monte, ça descend. Et puis, il y a d'autres situations qui sont peut-être plus en ligne avec ce que vous évoquez, c'est certains hedges ont en face des contreparties, comme Lehman Brothers, comme Bear Stearns, et du coup, non. Sont dans le rouge.
Sauf que ces produits structurés ont marché correctement, bien, pendant 10 ans, 12 ans.
Bon, tout à fait.
On n'a pas entendu parler, un. Oui. Et puis deux, je pense que Royal Bank of Scotland a aussi vendu des produits structurés.
Mais il y a... D'ailleurs, il y a des produits structurés qui sont absolument indispensables. Quand une collectivité locale, si elle va recevoir des ressources fixe, avec des loyers fixes indexés 1% par an, etc., et que par ailleurs elle s'est endettée et qu'elle veut échapper à l'évolution erratique des taux d'intérêt, c'est normal qu'elle achète un produit dérivé, un swap en l'occurrence, pour se protéger contre l'évolution du taux. Et ça peut se faire de façon très saine. Elle reçoit des ressources en euros, elle emprunte en euros, elle veut protéger ses cash flows, elle achète un swap contre le taux d'intérêt, sur le LIBOR en euros, sur le LIBOR en euros, pas de problème, c'est parfaitement ça, et c'est nécessaire, ça continuera toujours, hein, c'est une activité tout à fait raisonnable. Par contre, il y a quelques esprits un peu plus créatifs qui ont fait dériver le produit et qui se sont amusés à faire de la spéculation, et effectivement, j'étais pas très surpris en lisant la presse, parce que j'avais assisté à moi des trois conversations qui m'avaient paru surréalistes. Je suis RBS depuis 99, je pense qu'en 2001 déjà il y avait quelques colocs qui jouaient quoi. Alors c'est peut-être des cas partis, comme d'habitude, hein, c'est des épiphénomènes et puis ça fait des belles histoires pour les journalistes, hein. Peut-être que l'ampleur des phénomènes est moins grande que ce qu'on croit.
Oui, indépendamment des aspects très techniques que vous avez entendu depuis 2 heures, il y a quand même un aspect assez surréaliste à tout ça. Je suis chef d'entreprise, je suis patron d'une PME, je suis assez pragmatique. Et j'ai toujours appris quelque chose fondamental. Vous m'avez dit quelque chose qui m'a un peu choqué. Vous m'avez dit que finalement, les banquiers avaient pris l'habitude de... Comme si l'habitude était quelque chose qui justifie de faire des erreurs et de les répéter. Moi, je suis patron d'une petite entreprise. En général, quand je fais une connerie, j'essaie de ne pas la faire une deuxième fois. Sinon, je n'existerai plus, je serais déjà mort depuis longtemps. C'est du bon sens d'entrepreneur que j'essaie d'appliquer au quotidien. Il m'est arrivé de prendre des affaires que je n'aurais jamais dû prendre, beaucoup plus grosses que j'en avais les capacités de les faire. Je les payais cher, j'ai failli planter mon entreprise. Je ne reprends pas deux fois cette même erreur. Et donc, j'essaie de tirer toujours les leçons et les conséquences de mes erreurs. Et ce qui me choque dans tous ces propos, c'est que finalement, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de phénomène collectif d'enchaînement où les erreurs, on sait qu'on les fait, mais on les répète et on les continue. Moi, je trouve ça... Ouais.
Je crois que les erreurs, au moment où on les commet, on ne sait pas qu'elles sont commises. Et ce que vous mettez en évidence, là, c'est probablement la différence entre une petite entreprise managée de très près et un énorme conglomérat. Il est clair que les fautes qu'on a plus tôt...
Ça démontre au moins un problème de management.
Oui, absolument. Mais c'est plus difficile de piloter un bazar de 2000 milliards d'euros. C'est différent, dirons-nous. Et cette observation s'applique aussi à General Motors, à Renault et à Peugeot. Hein. Et effectivement, une banque, elle est fractionnée. Alors, par contre, individuellement, je peux vous dire que chaque équipe est quand même assez responsable de ce qu'elle fait. Et par ailleurs, le prix payé par les établissements bancaires est quand même assez lourd. Alors, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure. Un des mérites de la crise, c'est tout de même de faire prendre conscience, justement, d'opposer une réponse réelle à ce que vous dites. Pour une fois, les claques sont prises pas seulement par les PME, mais aussi par des grands établissements bancaires.
Elles vont être prises par les PME et dans une ampleur bien plus importante que celle qu'elles prennent les banquiers.
Je ne suis pas tout à fait d'accord.
On commence déjà à le voir. Donc moi, ça ne me fait pas vraiment rire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais faire de mes 120 salariés dans 3 mois aujourd'hui. Je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va faire demain matin. On dépend à 70% au moins de notre prise de commande des collectivités locales. Les investissements des collectivités locales, aujourd'hui, ils sont quasiment à l'arrêt. Donc on sait très bien que dans 3-4 mois, on ne sait pas ce que l'on fait aujourd'hui. C'est pas moi, c'est collectivement, c'est un tas de professions aujourd'hui. Donc ça ne nous fait pas rire du tout. On ne sait pas vers quoi on va.
Non, on est dans une situation où le politique va avoir à s'exprimer pleinement, parce qu'effectivement, là, les collectivités locales sont dans ce domaine-là. Mais pour juste tempérer ce que vous dites, il faut se promener dans Fleet Street à Londres un lundi matin ou un vendredi soir. Vous voyez les gens qui emportent leur carton, il y a des centaines de personnes. Donc, et si vous lisez l'histoire de la chute de Bear Stearns, par exemple, ou de Lehman Brothers, ce sont des événements qui sont produits en quelques journées. Le Bear Stearns, c'est quand même plusieurs milliers de salariés, ouf, c'est terminé, c'est comme dans les films, vous prenez l'écran qui disparaît, plus rien. Et si je reprends les histoires qui font mal, par exemple, prenez le cours de Royal Bank of Scotland, il était de 7 livres il y a un an et demi, il est de 60 centimes aujourd'hui. C'est-à-dire, il a été divisé par 12. Donc les gens qui avaient plein d'argent, qui avaient des actions en RBS, et qui se sont enrichis d'ailleurs, qui ont cru s'enrichir parce que la banque s'était développée en utilisant des effets de levier. Maintenant, ils sont revenus à quelque chose de plus raisonnable.
Monsieur.
Oui. Vous avez entendu un chef d'entreprise qui a témoigné de son inquiétude sur l'avenir. Vous êtes une corporation qui s'appelle les banquiers. Vous avez fait appel tout à l'heure aux politiques. Les politiques, moi j'ai entendu qu'ils avaient quand même pris, en tout cas en Europe, mais aussi ailleurs, un certain nombre de décisions que tout le monde a saluées comme étant courageuses, volontaires, etc. Et j'entends, je lis, qu'il y a une corporation qui semble ne plus fonctionner du tout, et vous l'avouez vous-même, puisque vous ne faites même plus confiance à vous-même. Donc quand une profession ne se fait même plus confiance, non pas aux clients, mais à son confrère ou avec qui il a l'habitude de fonctionner depuis des générations, il y a quand même quelque chose qui amène à ce que vous ayez un regard ou une explication vis-à-vis du citoyen qui est un peu plus approfondie que celle que vous nous donnez. Parce que vous donnez une explication qui, pour moi, me laisse totalement sur ma faim. Expliquez-moi pourquoi, après avoir reçu les fonds, les garanties, les assurances que le politique a décidé d'accorder aux banques, en expliquant très vite que ce n'était pas pour sauver les banques, parce que politiquement, il aurait pu être accusé de vouloir sauver ces gens qui se sont grassement enrichis, l'image du banquier dans l'opinion publique n'étant pas aussi bonne qu'elle a pu l'être, votre argent m'intéresse, disait une publicité il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous. C'est bien longtemps quand même.
Ça devait être la Société Générale.
Aujourd'hui, qu'est-ce que la Corporation des banquiers a à dire quand elle s'exprime? Et non pas comme vous l'avez fait, parce que je trouve que vous ne répondez pas à la question quand on dit « vous ne vous faites plus confiance à vous-même ». Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui sommes des clients, c'est-à-dire quand on entend dire ça?
Oui, alors, bon, ça fait référence à un problème assez technique qui est le « overnight lending ». Il y a deux choses. Tous les jours, on peut en parler, parce que c'est assez anecdotique, mais tous les jours, le trésorier d'une banque, à la fin de la journée, il faut qu'il ait rassemblé des promesses de crédit d'autres banques pour être présent le lendemain matin, pour honorer ses échéances. Et c'est des montants considérables. J'ai en tête les chiffres de Bear Stearns. Le soir, il fallait qu'il ait 30 milliards d'euros. Il avait 15 milliards d'euros à lui et 15 milliards qui devaient être apportés par d'autres banquiers et qui faisaient ça au jour le jour, tous les jours. C'est une habitude, ce qu'on appelle les repo lenders, qui vous passent l'argent et qui font que le lendemain matin, vous allez pouvoir honorer toutes les demandes. Et bien, à la suite de bruits de couloir, etc., de manipulation par des traders, enfin, il y a des enquêtes en ce moment à la SEC là-dessus, le trésorier de Bear Stearns, un soir, s'est trouvé avec tous ces repo lenders qui, les uns après les autres, à partir de 10h le matin, lui avait dit « Ah ben non, je ne serai pas là ce soir, c'est pas très grave. » Et à la fin, il n'avait plus d'argent. Et la seule façon qu'il a pu, pour faire sa journée du lendemain, il a été obligé d'aller voir la Fed de New York, qui lui a dit « Je peux rien faire pour vous, mais vous allez emprunter à JP Morgan, je prête à JP, JP va vous prêter à vous. » Ça a duré 3 jours. Au bout de 3 jours, la Fed a décidé que ça allait s'arrêter. Donc, les banques ne se font pas confiance en elles-mêmes. Effectivement, c'est ça, c'est que l'argent, le premier argent qui vient de Sarko, pour faire court, sert à ça. Il sert à faire que toutes les banques, tous les soirs, auront de quoi fournir le marché du lendemain. Et on parle de montants considérables. Je vous l'ai dit, 2000 milliards d'un côté, c'est tout ce qu'on emprunte et qu'on prête, et 50 milliards, c'est ce que les banques possèdent. Donc effectivement, c'est ça le premier objet de la liquidité apportée par Gordon Brown aux États-Unis, en Angleterre et Sarkozy en Europe. Après ça, effectivement, il y a un discours sur la nécessité de prêter aux PME qui en ont besoin. Moi, je peux dire que ce que je lis, comme vous, dans les journaux, apparemment, le crédit aux PME, et on ne parle pas que de l'immobilier, là, continue de croître à raison de 3% par an. Alors, ce qui me frappe, je dois dire, et là, je sympathise avec vous, c'est que il y a un décalage entre ce que je lis sur le crédit aux entreprises, qui progresse, qui continue, et ce que je vois, moi, dans le monde de l'immobilier pur, le financement de l'immobilier, je dois dire que le guichet est fermé. Il est fermé pour une raison technique, qui est que les valeurs chutant tous les jours, même si on ne prête pas un centime, tous les jours, on est obligé de rajouter des fonds propres pour compenser la perte de valeur. Parce que, en fait, le banquier, lui, il est obligé de mobiliser des fonds propres en fonction de la qualité des crédits qu'il a donné. Donc si les crédits se dégradent parce que le loan to value dont on a parlé descend, à chaque fois qu'il perd 1%, pof, c'est quelques dizaines de millions qui arrivent. Et donc, même sans prêter, la banque est en danger par la chute des valeurs. Alors c'est un cercle absolument vicieux parce que moins on prête, moins nos emprunteurs sont en bonne santé, plus les valeurs de leurs immeubles vont chuter, et moins on pourra prêter parce qu'on aura encore moins de fonds propres disponibles pour faire de nouveaux prêts. Donc c'est ce cercle vicieux qu'il faut absolument altérer. Mais l'argent des banquiers, l'argent des banquiers n'ont pas tellement d'argent finalement. Vous le sentez bien avec ces masses monétaires dont je parle. C'est de l'argent qui passe entre leurs mains et ils ne font que de la redistribution. Mais je pense que honnêtement, bon, le métier de banquier, la corporation de banquier, c'est difficile de parler de la corporation des banquiers, les métiers sont tellement différents, vous sentez bien qu'entre le trader qui a des produits des swaps exotiques et qui les propose à une coloc, et le responsable financier immobilier de la BNP qui prête à un promoteur immobilier, on est aux antipodes, quoi. Et c'est difficile de diaboliser tel ou tel. il est vrai qu'il y avait des pratiques qui étaient très très et qui sont encore d'ailleurs sûrement orientées par l'appât du gain et le désir d'obtenir, de voir se renouveler année après année des bonus faramineux. Mais c'est pas une généralité.
Une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les banques ne font pas encore totalement confiance, c'est que la crise des subprimes n'est pas complètement terminée et que les pertes ne sont pas complètement connues, ça ne s'arrête pas à un instant, ça continue dans le temps. Ouais. Tant que le marché ne sera pas complètement assaini, les banques ne vont pas se faire confiance.
Absolument. La situation s'est vraiment aggravée avec la chute de Lehman Brothers. Enfin, ça a été le signal est fort du fait que personne n'était à l'abri. Quoi. Donc aujourd'hui, si Gordon Brown n'avait pas dit « je vais underwriter une augmentation de capital pour toutes les banques anglaises et chacun, et donc pour RBS on a pris 15 milliards d'euros », s'il n'avait pas fait ça, tout le monde pouvait dire ben, « n'importe quelle banque peut faire faillite, aussi bien Société, que BNP, que Natixis ». Enfin, donc là, c'est un... Et on le sent bien quand on voit ce rapport entre... 2000 d'un côté et puis 50 de l'autre. Quoi.
Bon. Ce qui nous choque beaucoup aujourd'hui, nous autres pauvres entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs banques ne savent pas où ils sont. En fait, et comme vous dites, on ne sait pas où on va. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'effectivement, c'est ce grand sujet qui est les banquiers ont vendu des produits qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes.
Oui, mais ça, alors là, moi, j'entends un discours, mais...
J'ai une petite expérience, toute petite, j'ai vécu un passage qui n'a rien à voir avec la banque, où des entreprises un peu plus grosses, critiques par rapport aux banquiers, que sont Bouygues. J'ai vu un jour Martin Bouygues qui était devant la question de dire est-ce que je vais miser sur l'UMTS. Il y avait en face de lui Messier et bon, eux-mêmes patrons d'entreprise qui ne leur appartenaient pas. Et il a dit devant nous en disant moi ça fait 2 ans que j'ai une équipe de 50 personnes qui travaillent sur ce sujet, le prix est complètement débile, je ne comprends pas. L'économie de ce sujet-là, et je ne vais pas miser sur l'UMTS. Et c'était son argent. Les deux autres, ils s'en fichaient, c'est exactement. Et ce que je veux dire, on est exactement dans ce cas de figure-là, ce sont des sommes beaucoup plus grandes. Mais notre inquiétude, nous, entreprise, est de dire comment est-ce qu'une autre entreprise peut faire des choses qu'elle ne comprend pas. Et c'est vrai que là, comme vous dites, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et c'est vrai que chez nous, le jour où on perd sur un chantier, je suis capable de vous dire. Même un très gros chantier de plusieurs dizaines de millions d'euros, je suis capable de vous dire en temps réel ce que je vais perdre ou ce que je vais gagner.
Absolument, mais prenons l'exemple du chantier. Par contre, sur un chantier, vous ne savez pas à quel angle il faut tordre un fil de 12 pour être ancré sur une poutre avec un appui de 20 cm. De la même manière, le patron de l'UDA, le patron de la Société Générale, n'est pas capable de faire le pricing pour une option euro-dollar négociée quelque part à Tokyo. Donc, par contre, chacune des personnes qui est sur le chantier ou qui est dans la banque responsable de ces produits-là est compétente. Ce sont des armées de polytechniciens qu'on trouve dans les salles de marché à Londres et qui bricolent leurs produits. Ils savent ce qu'ils font. Maintenant,
c'est ça le problème.
C'est une caricature.
Les polytechniciens sont des grands ingénieurs qui ont fait merveille dans l'industrie. Ils se sont dévoyés dans la finance.
Absolument, je suis tout à fait d'accord.
Et le malheur est arrivé sur le monde. Il faut quand même rappeler les choses.
C'est un peu vrai. Il est possible qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir suffisant pour contrôler leur créativité débridée. Ça, c'est peut-être un problème. Non, absolument, mais donc c'est peut-être ce qu'on pourrait, dire qu'effectivement on a laissé proliférer dans ces établissements bancaires des gens qui étaient trop créatifs alors que finalement la matière ne demande pas autant de sophistication. C'est pas tout à fait inexact. Mais le fait que je crois que vraiment les banquiers ne sont pas tellement victimes de leur propre turpitude, il y a eu un déclencheur qui provient des subprimes, etc. Mais aujourd'hui, le problème c'est que le passage d'un risque. D'un mouvement brownien on était protégé par la granularité des crédits qu'on sentait, on avait une diversité incroyable de produits, et là maintenant, d'un seul coup, la macroéconomie, l'économie glisse de façon uniforme dans une seule direction, avec une uniformité qu'on n'avait jamais rencontrée jusqu'à présent, et c'est ça qui crée le trouble de tout le monde, hein, pas seulement des banquiers. C'est vraiment le le caractère macroéconomique de cette, enfin, cette crise.
Je dirais, enfin, j'ai plutôt le sentiment qu'on était dans un système qui a, vous vouliez parler de psychologie, psychanalyse, mais on est quand même dans un système qui s'est créé sa bulle autoprotégée avec les systèmes de quotas, de notation, enfin tout, qui avait été, les agences de notation qui avaient quand même été mises en cause, qui ont su faire des pirouettes magnifiques après l'explosion des valeurs sur l'internet, qui ont fait volte-face et qui ont repris du service sans que personne ne trouve rien à redire à ce système-là, et qui s'est progressivement isolé du reste du monde. D'ailleurs, physiquement, cet isolement, sur le territoire, c'est pour raccrocher à la question du territoire, sur le territoire, ça se voit, c'est-à-dire cet isolement d'une société qui vit sur elle-même avec des valeurs qui paraissent complètement délirantes au commun des mortels que nous sommes. Et personne n'a jamais remis en cause ce fossé absolument considérable qui existait entre des gens qui étaient capables, juste avec 2 mois de revenus, de s'acheter un château en Normandie, avec la Jaguar qui allait avec, la nouvelle Jaguar qui allait avec, alors même que la porte d'à côté, il y avait des problèmes de requalification de sites pollués, sans moyens pour ça, etc.
Si je dois vous rejoindre, il y a pour moi la leçon évidente, et pourtant quelque chose sur lequel j'étais pas tout à fait d'accord il y a quelques années, mais les produits dérivés, la couche de financiarisation qui vient se poser par-dessus la couche industrielle, le ratio est devenu pléthorique. Ce qui est clair, c'est que là, on paye le fait d'avoir laissé proliférer une couche de produits financiers qui était censée être au service de l'industrie et trop tue les choses. Il faudrait relire Ivanilitch sur ce sujet.
Mais je suis d'accord avec tout ça, mais avec le zéro risque, ça n'existe pas. Quoi qu'on fasse, il y a un risque. C'est-à-dire qu'on maîtrise tout à 100%, c'est pas vrai.
Oui.
Donc après, qu'il y ait des abus, évidemment, il faut les contrôler. Mais
tout ce qu'on
comporte un risque.
Bien sûr.
Voilà.
Non, mais la question, elle n'est pas de ne pas avoir de risque. La question, c'est qu'il y en a quelques-uns qui ont joué au casino l'argent des autres. En fait, c'est pas la question du risque. C'est la question que... vous savez, j'aime bien raconter l'histoire. Est-ce que vous savez que la pleine lune, a une influence sur la bourse? Ah, elle délire un peu. Non, c'est parce que tout le monde y croit et que ça a une influence sur la bourse. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'on découvre qu'on était accroché à un système qui était surtout fait de croyances qui, moi, je vous avoue, me fait plus penser au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, et encore, ça dépendait de qui on parle, mais ça fait des systèmes de croyances qui ressemble à de la... C'est quasi religieux, c'est-à-dire...
C'est pas ça, c'est de la sorcellerie. On est en sorcellerie. Brûlons les
banques. La question n'est pas de pas de risque, mais c'est aussi...
Je suis très étonné, parce que ce que vous dites, le milieu, pour ne pas parler des banquiers en général, mais le milieu de la finance, il n'y a aucun signaux, aucun clignotant qui se soit allumé pour leur expliquer qu'ils étaient entrés dans un milieu de fou. Jusqu'à aller demander à des polytechniciens d'être créatifs. Donc s'il y a quand même un milieu, on ne va quand même pas recruter, quand on sait ce que c'est qu'être polytechnicien, quand on sait quelle est la formation, le cursus, après on leur dit, attendez, vous allez en plus faire des mathématiques financières, et maintenant on vous demande quoi? D'être créatif. Alors si les polytechniciens étaient créatifs, ils seraient dans la pub, ils seraient dans l'art, on ne les voit pas dans ces milieux-là. Donc l'erreur de casting a été de croire qu'on prenait des gens et leur demandait de faire la créativité. Alors ils sont devenus des apprentis sorciers.
Et peut-être qu'on a. Pour terminer sur une note humoristique, la preuve de ce que vous avancez, c'est qu'en fait, on trouve plus de polytechniciens à Londres qu'à Paris. Probablement parce que les institutions londoniennes ne savaient pas à qui ils avaient affaire.
Mais c'est bien l'erreur de casting. C'est bien l'erreur de casting.
N'empêche que moi, en tant que chef d'entreprise, je suis président d'une fédération professionnelle, donc j'ai aussi contact avec toutes les autres. Les autres chefs d'entreprise, quand on allait voir les banquiers, moi aujourd'hui, mais on a reçu des leçons, mais vraiment des leçons. Combien de fois je me suis senti petit garçon face à des gens qui m'expliquaient des trucs dont je ne comprenais rien. On m'a juste expliqué une chose il y a 12 ans que j'ai très bien compris, c'est qu'il y avait un ratio important qui était celui de mes comptes par rapport à mon chiffre d'affaires. Mais faites toujours fait ce qu'on vous dit, mais c'est pas ce que nous on fait. Parce que moi, on m'a toujours expliqué que le ratio fonds propres chiffre d'affaires, c'était de l'ordre de 8-10%. Quand mon entreprise, c'est à peu près viable. Les chiffres que j'ai entendus sont très très loin de ça.
Ah, absolument. Non.
Donc, je ne comprends pas pourquoi moi, on m'a expliqué en tant que chef d'entreprise que si on voulait emprunter de l'argent et que mon entreprise soit viable, il fallait que je distribue un minimum de dividendes et que j'affecte mes résultats, si possible, sur mon haut de bilan pour le solidifier et pour me rendre plus pérenne et donc plus attractif au regard des banques, et qu'elles-mêmes ne s'appliquent pas à cette propre
règle. Pour être juste, les travaux de la commission, on a parlé, on a évoqué la commission de Bâle, la Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, ça bouge lentement, mais... Tout l'objectif, c'est justement, alors ça arrive trop tard, pendant 3 ans trop tard, mais tout l'objectif est justement d'éviter que les banquiers n'appliquent pas à eux-mêmes les règles qu'ils imposent à leurs clients. Et effectivement, maintenant, on voit bien ce qui va se passer une fois que la liquidité sera rétablie, que vous allez vous apercevoir que les banquiers, il sera impossible pour eux de vous prêter plus que 65% des montants de l'investissement.
C'est normal, quelque chose qui est... Mais quelque part, c'est normal. Ça aurait dû être comme ça avant. N'importe quel chef d'entreprise l'aurait compris. Mais vous savez ce qui va tuer l'économie française dans les mois qui viennent et qui est en train de le faire, et les PME? Ce sont les sociétés d'assurance crédit. Ce sont deux majeurs en France qui actuellement sont en train de couper les robinets chez les fournisseurs de la plupart des PME. Et je peux vous dire qu'on va le sortir passer dans les semaines qui viennent. Il y a déjà des entreprises aujourd'hui n'ont plus recours du tout au financement de leur fourniture. Donc elles ne peuvent plus assurer leurs commandes. Ce n'est même pas un problème de bourse de commandes, c'est un problème de comment assurer, parce que les sociétés d'assurance crédit, notamment la SFAC, pour ne pas les citer, ont fermé les robinets chez les fournisseurs. Y compris pour des entreprises qui sont saines, uniquement parce qu'elles appartiennent à des secteurs dits sensibles et dangereux. On en est là aujourd'hui.
Non, mais ça rejoint un petit peu ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que la psychologie a beaucoup d'importance. On se fait peur, mais...
La psychologie de la peur, quand vous dites qu'il y a une part de risque, je suis heureuse de vous l'entendre dire. Moi, il y a 10 ans, j'ai monté ma propre boîte, j'avais l'impression d'être un phénomène, parce que je me fais peur, les 40 000 euros que j'ai hérités de mon grand-père, je ne les mets pas dans de l'immobilier, je les mets dans une entreprise. Rendez-vous compte, mais c'était folle. Et je crois qu'on s'est fait peur. Je veux dire, les banquiers ne sont que finalement la partie visible de tout un système qu'on a collectivement constitué, qui est centré sur la peur. Regardez les assurances, elles vendent des produits pour s'assurer contre la peur de la mort. Les assurances, les airbags dans les voitures, regardez la taille des poussettes des enfants.
Oui. Par M. Attali, c'était la suppression du principe de précaution dans la Constitution, qui est le mal principal de notre société, le principe de précaution. C'est ce qui nous tue.
Voilà. Parce que vous parlez de la SFAC, on est devant le phénomène qui malheureusement se généralise, que les Anglais appellent la self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire que je suis à la SFAC, je dis tiens, sur un secteur-là est en danger, je ne vais surtout pas m'y intéresser, et bien entendu on précipite la faillite du secteur en question, et donc on peut dire quelques années plus tard, vous voyez j'avais raison, j'avais bien fait de ne pas faire, de pas être dans ce... Mais là il n'y a que le pouvoir politique qui peut inverser la donne.
Quand vous battez toute la journée pour faire le...
Non mais sans relancer le débat, juste comme ça, j'ai ajouté parce qu'on peut pas, s'il y a des reproches qu'on peut pas faire aux Américains, c'est bien celui d'avoir péché par trop de peur. Donc j'entends bien la question de la prise du risque et de la nécessité effectivement d'être dans ce registre-là, mais justement dans le contexte actuel, l'exemple américain, ça a quand même été à un moment de ne pas apprécier...
Et la vente d'armes aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle incarne? Enfin, je sais pas, mais on est quand même des sociétés qui ont vécu, qui n'ont jamais été aussi sûres et qui vivent dans une peur incroyable. C'est pas du tout pareil. Et vendre de la peur, c'était un produit rentable.
Là, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est moins un problème de peur, c'est un problème de stratégie et d'anticipation. C'est-à-dire que on anticipe la chute de quelqu'un et comme on a un levier important entre les mains, on crée les conditions de cette chute. D'ailleurs, au niveau micro, ça vaut aussi pour un banquier à son guichet. Il voit arriver un entrepreneur, il dit « Oh, j'aime pas trop, je suis pas. Si tout le monde fait ça, l'entrepreneur fond les plombs, et effectivement, 3 mois plus tard, le banquier peut dire « Moi, j'ai bien fait pas y aller. »
Mais ce qui est intéressant dans l'immobilier, c'est que les leçons de 90 ont été prises dans le secteur immobilier, dans la mesure où les cautions bancaires qui avaient été organisées à la suite de l'explosion de la bulle de 90 ont été vraiment instaurées. Les seules fuites de promoteurs qui partent avec la caisse aux Bahamas, il y en a eu très peu ce coup-ci. Alors que, rappelez-vous, en 90, les exemples ne cessaient de se développer. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a un milieu professionnel qui s'est un peu moralisé, qui a su se professionnaliser dans la gestion de son risque, qui a su anticiper le retournement de cycle, voilà. Mais là, il a été dépassé par son propre financeur, en fait, d'une certaine façon. L'étape d'après, c'est
le financeur. Avec les sociétés immobilières bénéfices, en l'espace de 6 mois, c'est une épargne. Les 4e transactions de compagnie, en 6 mois, on avait 10 opérations sur une région, ils avaient c'est la règle complète.
Mais l'anticipation.
Aujourd'hui, ça va refourguer leurs opérations.
Il n'y a pas de bâtiment vide. Aujourd'hui, 30 000 m² de logements que le gouvernement français veut acheter aux promoteurs, ce n'est pas 30 000 m² construits, ce n'est pas des chantiers qui sont arrêtés en plan. C'est des panneaux dans lequel il y a marqué « Votre avenir, ici, une résidence de 52 logements ». C'est tout ce qu'il y a. Ce sont des promesses. C'est même pas un permis déposé. C'est juste l'idée qu'on va créer des mètres carrés. C'est ça le stock des 30 000 logements que le président Sarkozy veut faire racheter par les opérateurs sociaux. Donc ça veut dire qu'il y avait une certaine prudence dans les milieux professionnels qui a su être mise en œuvre. La question, c'est l'étage de la fusée banque, sans doute, a besoin des mêmes règles aujourd'hui.
Ce dont on a besoin demain, c'est quoi? C'est tout simplement de rétablir le dialogue entre le monde de la finance et le monde de l'entreprise, notamment des PME. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'une grande majorité de chefs d'entreprise, des patrons de PME, ont une sous-culture financière. C'est-à-dire, n'ont pas conscience de l'importance du dialogue et de la relation avec leurs banquiers et d'écouter leurs banquiers sur les besoins de capitalisation, etc. Beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas cette culture financière. Mais pourquoi? Parce que le rôle de banquier, c'est aussi d'avoir un rôle de pédagogie vis-à-vis des chefs d'entreprise. Or, la pédagogie, ça commence par la lisibilité du message. Quand un chef d'entreprise va voir son banquier et qu'il comprend 5% des mots qu'il lui explique, mais il ne revient pas. Donc, il y a aussi un problème de pédagogie dans le discours, dans la méthode vis-à-vis des chefs d'entreprise. C'est pour ça qu'on a besoin d'une relation simple.
Non, ça c'est une observation qui m'est souvent faite, c'est que j'interviens dans les groupes de promoteurs liés à l'immobilier, et on me demande souvent d'expliquer glossaire. Quoi. Effectivement, au bout d'un certain temps, DSCR, LTV, VICR, ça finit par lasser. Il faut trouver un langage un peu différent.